Coucou, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique des jeux de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir mes invités en achetant leurs jeux. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel, hebdomadaire, on ne sait plus très bien, de La Cellule. Le dernier podcast de la saison, et pour ce dernier podcast, de nouveaux podcasteurs. Anne-Cécile, bonjour, ça va la pêche?
Salut!
La banane. Et tu es venu avec Guillaume. Guillaume, ça va?
Ça va super.
Et vous nous ramenez ce jeu incroyable qui est Time Story, un jeu de Space Cowboy, c'est ça? Hein,
c'est ça, ça, exactement. Ouais.
C'est les gens qui ont fait... comment dire, les Unlock, me semble-t-il. C'est une boîte qui a appartenu à Croc. Nous sommes également avec Claire. Claire, ça va la pêche. Merci à vous d'avoir amené ce jeu qui nous intéresse au plus haut point, puisque comme tu le disais, Claire, en préparant cette émission, dès le début du jeu, on nous dit que c'est ni un jeu de rôle, ni un jeu de plateau.
Exactement.
Alors, Go, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
En tout cas, le pari des créateurs, Claire, c'est de dire que... on n'a pas voulu trancher entre les deux et on a voulu plutôt faire un mix pour satisfaire les joueurs qui seraient peut-être nostalgiques du jeu de rôle mais qui en même temps préféraient une version condensée et efficace du jeu de plateau.
Ouais. Alors à savoir que... Oh là, j'ai mon micro qui dérègle. À savoir que donc Croc, c'est un monument, donc le fondateur de Space Cowboy. Ils sont deux, j'oublie toujours le nom du deuxième, mais moi je connais surtout Croc parce que c'est le rôliste. Et donc du coup, en fait, c'est un grand nom du jeu de rôle à la base. C'est l'inventeur, le créateur, l'auteur de Bitume et de In Nomine Satanis Magna Verita. Je ne sais pas si tu connais ça toi, Claire.
Non.
C'est des vieux jeux très punk, anti-cléricaux et tout ça. À l'époque, ils avaient vraiment défrayé la chronique. Et donc, du coup, il est connu pour être un grand monsieur du monde du jeu de rôle, un peu provocateur, etc. Donc, ça ne m'étonne pas du tout que lorsqu'il a repris cette société, la Space Cowboy, lorsqu'il a fondé cette société, il ait voulu mettre le jeu de rôle en fait, au centre de ses projets. Et tu vois, même Unlock, dont on parlait tout à l'heure, bah, finalement, il y a une petite dimension jeu de rôle, scénario. Vous avez déjà fait des Unlock, Anne-Cécile et Guillaume? Jamais?
Non, j'en ai entendu parler.
Oh, c'est un truc de fou. être passé à côté d'Unlock toutes ces années, c'est... Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est un jeu de plateau, mais qui propose des escape games, en fait, à base de cartes. Ouais, et donc c'est vraiment très très sympa, il y a toujours un petit scénario, voilà, donc là aussi... Bon, bref, je te laisse, Claire, continuer ton explication. Donc...
On est deux à présenter, oui. en gros, l'idée de Time Story, c'est qu'on va créer une équipe à partir justement de cartes de rôle, chacun va incarner un personnage, et cette équipe va se retrouver à mener une mission dans le temps, à résoudre.
D'accord, ok.
Ouais, pour le pitch, en fait, on est dans une société futuriste et qui va aller résoudre des anomalies temporelles. On est dans une petite équipe. À chaque fois, on va devoir choisir les personnages qu'on va incarner. En fait, ça va être des avatars qu'on va incarner dans le passé pour aller résoudre cette anomalie. Alors, cette anomalie, il va falloir aller résoudre une petite enquête parce qu'on ne sait pas où aller, on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a des choses cheloues. Là, dans celui-ci, on va se retrouver dans un asile. Ça devient vraiment un peu particulier, une ambiance un peu bizarre. Et du coup, comme on vient du futur, on passe facilement pour un fou aussi. Il y a le côté RP, du coup, qui est assez intéressant parce qu'on va tous incarner des gens qui sont plus ou moins fous.
Oui, c'est ça, qui ont leurs propres problèmes psychiatriques. Ils ont une bonne raison d'être là. Voilà. Ouais.
Ah oui, d'accord, ok.
Donc, par contre, le seul truc, c'est que comme on est dans une société, il y a un côté rendement, donc il faut aller résoudre les anomalies temporelles dans un certain temps donné. C'est pour ça qu'on a une timeline au milieu du plateau. L'idée, c'est qu'on va démarrer, par exemple, à 25, et tous les tours, on va perdre des tours d'action.
D'accord, donc on a une frise chronologique au milieu du plateau.
Et donc... il va falloir qu'on résoudre en fait, l'enquête dans ce temps parti. Si on n'est pas dans ce temps parti, on est ressorti de la faille temporelle.
D'accord.
Et là, on se met en gueule, en gros. Hein. On nous dit, vous n'avez pas réussi à gérer.
On a perdu de l'argent.
Et on a perdu de l'argent à cause de vous. Donc, il va falloir y retourner. Et cette fois-ci, il va falloir faire, pour partir de zéro, on vous renvoie exactement au même endroit où vous êtes arrivé au début. Et vous allez aller... Cette fois-ci, vous connaissez les endroits où il y a les choses. Donc, il faut trouver le moyen le plus rapide d'aller résoudre l'enquête.
Il y a quelque chose du try and die, en fait, dans ce jeu. C'est-à-dire que, naturellement, ce ne sera pas possible, normalement, de gagner la première partie. On n'aura pas le temps.
Ok. Ça me fait beaucoup penser, là, comme ça, au pitch aussi des jeux Assassin's Creed.
Ouais, il y a vraiment un côté, ça ressemble, enfin, si, pour les moi qui suis amateur un peu, j'aimais bien, j'ai retrouvé vraiment cette ambiance-là. Ouais. Et peut y avoir des combats contre des autres, on peut les esquiver, c'est pour ça qu'il y a du bagou, ou des choses comme ça, où on va vraiment essayer de résoudre soit par la violence, soit par l'intellectuel, soit par justement
la ruse,
par la tchatche.
D'accord. Et donc les personnages qu'on voit, alors là il y a des cartes aussi en dessous, on commence à voir des visages.
C'est ça. Ça va être tout le scénario. C'est-à-dire que là on va commencer à la partie, on va devoir lire la carte A qui est en gros une petite intelligence artificielle qui nous dit voilà, vous vous réveillez doucement dans votre capsule, etc. D'accord. Et là on a notre chef qui va nous expliquer notre mission, ce qu'on doit faire.
Okay.
Et en fait ça va se dérouler à chaque fois comme ça. Quand on va arriver dans un endroit qui on va découvrir le plan de cet endroit, on va devoir aller dans des salles, faire des rencontres, et à chaque fois ici va s'afficher en fait le lieu où on va entrer.
D'accord, ok. Ouais.
Et on nous promet d'ailleurs pas mal de narratifs parce qu'on découvre des endroits, les cartes nous donnent des informations et les joueurs sont invités à raconter plutôt ce qu'ils ont lu comme s'ils étaient en train de le vivre.
Ouais.
D'accord, donc nous
l'idée,
on va piocher la carte.
L'idée c'est pas de lire à haute voix la carte, c'est on la lit pour soi. Et après, il faut qu'on, sans la redire, essayer d'expliquer aux autres joueurs ce qui se passe, quoi.
Ok, excellent. Excellent. Je vois aussi plein de jetons. Il y a l'air d'avoir une économie de jetons, des points de vie, tout ça.
Ouais. Il y aura aussi certains ennemis qui vont popper à certains endroits de la map.
D'accord,
et du coup, ils vont indiquer la dangerosité de cet ennemi. Il y a les boucliers qui vont indiquer ses points de vie, quand est-ce qu'il va les perdre.
C'est ça, en fait, comme c'est vraiment aussi sur la logique de l'escape game, un petit peu, il faut réunir un certain nombre de conditions pour pouvoir avancer.
D'accord.
Et donc, il faut qu'on trouve un moyen de résoudre les problèmes, et notamment en accumulant soit des jetons qui vont nous permettre de passer des nouvelles cartes, soit des compétences qui permettent de casser les jetons des ennemis, entre guillemets.
D'accord,
il y a aussi des cartes éléments ou des objets qui vont nous permettre d'aller échanger un petit peu comme un gardien. Voilà, j'ai la clé. Ou au contraire le tabasser plus vite, ou alors résoudre des énigmes, ou vraiment c'est ça. Et des fois ça va servir strictement à rien. C'est pour ça que en fait c'est toujours dans l'idée du contre-la-montre, c'est qu'il y a vraiment des parties du jeu qui ont été faites pour nous faire perdre du temps.
D'accord. Et on est en coopération, c'est un jeu coopératif. Voilà, on n'est pas les uns contre les autres. À aucun moment on peut avoir un traître dans l'équipe ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas de ça.
Même c'est très collaboratif dans le sens où on part du principe que tout le monde est capable de pouvoir télépathique. Donc, ce que je sais, vous le savez.
le bon truc pour résoudre ce problème. D'accord, ok. Alors, sans les rôlistes qui ont rencontré des problèmes, tu vois, au cours de leur partie de rôle, et qui ont décidé dans leur règle de jeu de faire ça, comme ça, c'est bon, ça s'est réglé, voilà. Ok, très très cool. Comment t'as entendu parler de ce jeu, Guillaume ? C'est toi qui est le possesseur.
Alors, c'est assez rigolo. J'étais une soirée chez des copains sur une péniche et ils ont dit qu'est-ce qu'on fait ? On dit on va jouer à un jeu de société, ça c'est génial et voilà.
C'est pas du tout par Assassin's Creed que t'as.
Pas du tout, non, ouais, c'était vraiment. Voilà, c'est des potes qui m'ont dit ça c'est génial et voilà, on a joué à ça et on a fini de jouer, je suis allé sur Vinted et j'ai trouvé ça plus toutes les extensions.
Gros fan.
Je l'ai acheté direct.
Day One, fan Day One. Non, et du coup toi c'est quoi ta culture de jeu, qu'est-ce que tu fais comme jeu en général, à quoi tu joues, tu joues depuis longtemps?
Je suis un joueur occasionnel, j'aime bien jouer, on fait des jeux de rôle tous les mois.
Avec Anne-Cécile, donc
qui est notre Dungeon Master.
D'accord, ok.
Et après, sinon, un jeu de société, là, j'ai forcément rien qui va venir à l'esprit.
Vous êtes plutôt rôliste, donc, du coup, tous les deux. Bah. Ouais.
À l'origine, on joue beaucoup depuis qu'on est mômes, vu qu'on est tous frères et sœurs.
Ouais. Tu révèles.
Le secret.
Toute la famille au grand complet. Non,
mais c'est cool. Mais c'est vrai qu'au fur du temps qu'on a moins de temps, qu'on est obligé de choisir, on a fait plutôt du jeu de rôle ces derniers temps. Ouais.
Oh, bah, c'est chouette. Mmh. Ok, ouais. Très, très bien. Eh ben, c'est parti. Moi, comme ça, à vue de nez, je vois pas trop. Enfin, sauf si t'as des choses encore à expliquer, Claire, avant que la mise en place du plateau ne commence. Ça a pas pris très longtemps à être mis en place. En 10 minutes, Guillaume, tu nous as fait ça.
Oui, ça va assez vite, en fait, parce que c'est tout. T'es bien distingué. Même si on mélange les cartes, on les retrouve super facilement.
Ouais. Là, je pense qu'il va juste y avoir un temps, en fait, où on va assimiler nos propres personnages.
D'accord.
Avant de se lancer dans la mission.
Ouais, repérer en fait Puis il y a des designs pour tout ce qui est caractéristique. Par exemple, on a de l'adresse, tout ça va être plutôt en vert. Le bagou, ça va être plutôt en jaune.
Okay.
La force de combat, et ben, ça va plutôt en rouge.
Il y a des petits pictos, des
couleurs qui vont en fait permettre d'aller assez vite en fait. C'est des choses qui sont assez,
ouais,
assez
globalement
standard.
Visuellement, je pense, ouais, qu'on se repère très vite dans le jeu.
D'accord, ok. Ouais. Et juste rapidement, Anne-Cécile, toi, t'as déjà joué à Time Story? C'est juste pour situer un peu.
Ouais, une fois.
Une fois, ouais, ok, ouais. Donc t'es pas une grosse joueuse, t'as pas tout fini, t'es
non,
pas, voilà.
Non, on a pas. En fait, ça fait longtemps qu'on cherche un moment pour recommencer parce qu'on
d'accord,
a perdu.
Okay.
Ouais. On n'a pas eu le temps de refaire une partie. Ouais.
Très bien. Et Guillaume, toi, t'as pas joué énormément, en fait.
Alors, bah, moi, je l'ai fait deux fois déjà.
Ah oui,
parce
déjà.
Que,
ouais.
Je l'ai joué avec mes amis, mais en fait, le coup du temps, en fait, ça limite forcément en fait notre expérience dans le jeu, dans la map, en fait.
D'accord, ok.
Et donc, bah, ça donne forcément envie d'aller chercher plus loin. T'as presque envie qu'à la fin de la timeline, non, je veux pas arrêter, quoi, je veux continuer à explorer.
D'accord, ouais.
Donc,
okay.
En fait, il y a ce côté-là qui est hyper frustrant. C'est vraiment un jeu qui joue sur la frustration.
Et
donc,
du coup, t'as tellement envie d'y retourner, quoi.
Ouais.
Ok, d'accord. Ok. C'est intéressant aussi de faire un petit tour de table pour savoir à quel niveau vous êtes. Moi, j'ai jamais joué. Hein. C'est vraiment la première fois, même que j'en ai déjà entendu parler, évidemment. Mais c'est la première fois que je vois le plateau et tout. Donc, je vais tout découvrir. Voilà. Et toi, Claire, du coup, t'as déjà joué aussi, hein.
Alors, j'ai fait une partie et j'ai terminé le jeu en disant mais je déteste ce jeu. Pas parce que... moi, j'ai adoré l'univers, mais en fait, je suis ce genre de personne qui est jusqu'au boutiste. Et là, on m'empêche littéralement d'aller voir ce qui se cache derrière la vieille porte de la grange ou derrière la botte de foin, et parce que je vais perdre trop de temps. Et ça me ronge littéralement de l'intérieur.
Ah, d'accord, ok, je vois. Parce qu'en fait, si j'ai bien compris ce que t'expliquais tout à l'heure, Guillaume, c'est que la timeline, ce sont des actions, en fait.
Ouais,
c'est-à-dire
c'est
que
ça.
Le temps qui passe, c'est autant d'actions qu'on va faire.
Oui. On va lancer des dés et ils vont nous dire, bah, là, cette action que vous faites, genre aller parler à un kidam qui est complètement fou, bah, ça va vous coûter 3 jetons de temps.
Ah, et c'est encore mieux que ce que je pensais. Ok.
Et ces 3 jetons de temps, ils vont servir à rien parce qu'en fait, ce mec-là est vraiment fou.
Il n'y a rien à lui apprendre. Il n'y a aucun verre du nez.
Donc,
à lui tirer.
Il y a vraiment dans la frustration, ça,
okay,
va très loin.
Okay. Ah oui, d'où le dead and retry. Parce que du coup, ce gars-là, tu le réinterrogeras pas et donc du coup, tu gagneras du temps.
Oui, c'est ça.
Ok, d'accord. Ok, je vois un peu le genre. Ok, bah c'est parti. Moi, j'ai envie de tester direct. on revient vers le micro. Alors, ok. Ok. Donc là, clairement, moi déjà, je viens de prendre un twist dans la tronche. C'est-à-dire que je... Donc, faut expliquer le dispositif. Donc, effectivement, à chaque fois qu'on fait des actions, ça, on l'a expliqué tout à l'heure, à chaque fois qu'on fait des actions, on perd du temps. On visite, en fait, des pièces. Se déplacer de pièce en pièce, ça fait perdre du temps. Faire des actions dans les pièces, c'est-à-dire... Alors, quand on arrive dans une pièce, il faut expliquer, il y a des cartes qui sont posées devant nous, qui représentent un décor. Ces cartes, il faut imaginer un décor, en fait, et les cartes, quand on les pose les unes à côté des autres, le décor se compose. Et donc, si, par exemple, on dit on va à droite, on prend la carte qui est à droite et qui représente la partie du décor de droite. Et puis, si on dit on va à gauche, on retourne la carte de gauche, etc. Donc, les personnages, quand ils vont dans une pièce, dans un lieu, ça ouvre des cartes qui ouvrent des actions possibles, etc., etc. C'est des portes. Ouais, vas-y, hein, je t'en prie, Claire.
Moi, je pense aussi que ce décor, il est là pour orienter nos choix. C'est pas des choix aléatoires. Hein. On regarde ce qui est proposé, parce que c'est des décors très riches, et on estime, selon nos capacités, où est-ce qu'on devrait se rendre.
Ouais, exactement. Donc, faut imaginer que les personnages... Alors, les personnages, c'est très... Ce jeu est ultra... C'est un jeu... En fait, c'est vraiment un jeu à tiroir, à tous les niveaux. À la fois spatialement et temporellement. Déjà, il faut comprendre que les personnages que l'on joue, c'est nous-mêmes. Qui entrons, donc Claire, Guillaume, Anne-Cécile, Romaric. Et on nous met dans une capsule. Et là, dans la capsule, on va intégrer un réceptacle, un simulacre, qui va être un personnage. Donc là, peut-être d'abord décrire. Anne-Cécile, tu veux décrire ton personnage rapidement que t'avais tiré?
Ouais, alors moi j'avais Ferdinand Meunier. Donc lui, c'est un traumatisé de guerre. Donc il a des capacités de force plutôt, donc plutôt pour le combat. Mais par contre, il supporte pas de voir quelqu'un mourir. Et si un ennemi arrive à 1 ou 2 points de vie, il est tétanisé, il est incapable d'agir. Donc je ne peux pas finir un combat. Je peux le commencer par contre.
Voilà, c'est ça. Donc toi, t'as en fait, donc il faut comprendre que les personnages sont définis par 4 caractéristiques en réalité. l'agilité qui est en vert, le blabla qui est en jaune, la force qui est en rouge et les PV qui sont en bleu. Donc PV qui sont soit de l'aégis des boucliers, soit directement les points de vie, le cœur. Quand on est touché au cœur, on a perdu des PV sur son corps. Le bouclier, c'est en fait c'est des points de vie qui sont plutôt représentés, c'est l'armure, c'est les vêtements que tu portes, ouais. La protection. Donc toi, ce que tu dis, c'est que ton personnage, il a du jaune et du rouge, c'est-à-dire il a du blabla, il a de la force. Évidemment, tous les personnages ont du bleu en quantité plus ou moins.
Ouais, mais voilà. En fait, mais pas mal de défense. D'agilité. Ouais, c'est ça. Voilà. Pas d'agilité, mais pas mal de défense et pas mal de force.
Et ce petit handicap qui est très rigolo, qui fait que toi, tu peux pas achever quelqu'un.
Ouais.
Voilà. Donc tu peux taper très dur, mais tu pourras pas tuer. Ça, c'est important parce que tuer un perso, ça permet de passer à l'épreuve suivante.
Selon les rencontres.
Voilà, ça veut dire...
Parce qu'il y a des personnages qui vont te bloquer, en fait.
Voilà.
Des combattants ou des fous qui vont te bloquer sur la case. Et tant que tu les as pas vaincus, t'es
bloqué. Et qui dit être bloqué, dit perdre du temps.
Très important, le temps.
Très important, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que le fait de pas pouvoir achever, ça fait qu'en gros, toi, ton personnage, il peut pas rester seul. Parce qu'en cas d'adversité, il sera bloqué en fait face à l'ennemi. Donc on doit forcément t'accompagner quelque part.
Oui, puis en plus il est bloqué mais tétanisé. Donc je peux pas me défendre si le personnage d'en face m'attaque en plus. Donc je vais perdre des points de vie. Ouais. Et moi je pourrais pas riposter.
Ouais, effectivement. Donc t'es un peu le cabot contre un bal par la main. On dit viens Hector.
C'est
béni. Ouais, c'est ça. Viens avec nous. Viens. Donc voilà. Donc ça, voilà. Donc le personnage d'Anne-Cécile. Guillaume, présente un petit peu ton personnage.
Donc moi, mon personnage, c'est Edith Jolibois, qui est une cannibale. Alors l'intérêt, c'est que...
C'est incroyable. J'avais pas vu qu'il y avait des dessins derrière. Il y avait des illustrations.
Super travaillé, en plus. Ouais. Non, en fait, l'intérêt de mon personnage, c'est qu'il est hyper équilibré.
Super.
Elle a beaucoup d'agilesse, elle a beaucoup de blablatage, elle a un même niveau de force. Elle a deux partout, en fait.
Ouais.
Mais surtout, l'intérêt de ce personnage, c'est que comme c'est une cannibale, à chaque fois que je vainc un ennemi, que je l'achève, je vais prendre une petite bouchée à la fin,
ouais.
Et ça va me redonner un point de vie. Par contre, je ne peux pas aller au-delà de ce max de points de vie que j'ai de base. Mais par contre, si je suis en dessous, c'est intéressant. Par contre, si j'ai plus de bouclier, ça ne me redonne pas de bouclier. Quoi. C'est vraiment juste les points de vie.
Mais l'association, on voit tout de suite que l'association entre toi, du coup, et Anne-Cécile est intéressante.
Ça a été notre stratégie. C'est que moi, je l'ai commencé et lui, il les finissait.
Ouais,
c'est
exactement. Ça. Claire, tu jouais...
Non. Je jouais Marie Berthollet, qui est nérotomane, donc elle est absolument persuadée que tout le monde l'aime au premier coup d'œil. Elle est surtout dans la tchatche et l'adresse, elle est très mauvaise en combat, mais en fait parce qu'elle a le défaut de sa qualité, c'est-à-dire qu'elle elle passe par l'expression.
Elle est, en tout cas, voilà, quoi. Ça, le personnage, tout de suite, il nous a paru un petit peu fort, parce que tu peux, quand tu lances un dé, donc il faut savoir que quand on a des tests à faire, on lance des dés. Si on fait une tête de mort, on perd un point de vie. Donc les dés, il faut imaginer un dé à 6 faces avec une face sur laquelle il y a deux patates. Donc ça veut dire qu'on inflige 2 dégâts au problème. Il y a deux faces sur laquelle il y a une patate, donc on inflige 1 au problème. Autrement dit, on a une chance sur 2 d'infliger au moins un dégât à un problème. Par contre, on a une chance sur 2 de rien faire si on fait blanc ou de se prendre des dégâts si on fait la tête de mort. Donc il faut envisager quand même que c'est un dé, on a une chance sur deux de mettre une patate, une chance sur deux de s'en prendre une en gros, à peu près. Hein. Un peu moins d'une chance sur deux de s'en prendre une. Chance sur trois une chance sur trois de prendre une patate, une chance sur deux de distribuer les pralines. Et donc toi, un des pouvoirs de ton personnage, c'est que...
C'est que quand je lance mon dé dans les capacités de communication, je peux changer mon résultat.
Ah, dans les capacités de communication. Ouais, d'accord, ok, c'est pour ça. Bah oui, normal.
Et en fait, sachant que moi, j'ai toujours choisi de ne faire que les tests qui convenaient à mon personnage. Mmh. Ouais.
Très, très bien. Et moi, j'étais donc la vieille Bic, la vieille, comment on dit, Tati Daniel.
Ah ouais.
La Tati Daniel. Alors, très équilibrée, en fait. Hein. Elle a deux dans quasiment toutes les caractères, sauf en blabla où elle a que un parce qu'elle est vraiment un cariatre. Et elle a quand même un peu d'endurance, elle a un peu d'armure, elle a un peu de cuir. C'était un personnage, moi j'ai bien kiffé le
c'est
jeu.
Une vieille peau.
Ouais. Et mine de rien, alors Guillaume et Anne-Cécile un peu moins, mais nous deux, Claire, on s'est vraiment amusé à les jouer de temps en temps.
Oui, je pense qu'on peut vraiment s'amuser à rentrer dans le personnage, voilà. Dans les interactions. C'est pas une obligation du jeu, je trouve qu'on n'y est pas particulièrement incité.
Exactement, pas du tout même. C'est un plaisir.
Ouais,
si on veut le faire, on le fait. Si on veut pas, on le fait pas. Puisque de toute façon, encore une fois, on est le joueur qui incarne un réceptacle. Et le jeu là-dessus est très clair. Soit on peut discuter entre nous en tant que joueur, parce qu'on est justement en liaison communication à travers les capsules temporelles. soit on joue nos personnages, si je veux dire, on fait un peu de roleplay et tout. Et de ce point de vue-là, vu qu'il n'y a pas d'exigence, bah, le jeu incite un peu au roleplay ceux qui veulent le faire. Enfin, il n'y a aucune contrainte, aucun problème de Julia. Pour ceux qui suivent la série depuis longtemps, vous savez ce que c'est. Le problème de Julia, c'est l'intimidation au roleplay, justement. Quand on te dit, vas-y, fais-moi un roleplay. D'un coup, tu as une espèce d'intimidation comme ça, une espèce de charge d'exigence. Il n'y a pas ce problème-là dans ce jeu, donc il pousse naturellement à en faire ou à ne pas en faire. Enfin, je pense qu'il invite effectivement à s'imaginer des situations. Pourquoi c'est un jeu à tiroir ? Parce que d'abord, on ouvre un premier tiroir dans lequel il y a un personnage. Ensuite, on ouvre un lieu, un grand lieu, une grande map sur laquelle il y a plusieurs zones. On avait donc une carte, il faut imaginer une carte un petit peu comme les cartes incendie, infirmerie, salle de repos, promenade, dortoir. Donc ça, c'est la grande salle. Puis ensuite, quand on va aller dans chacun de ces lieux, devant nous, on va avoir des cartes qui vont poser, qui vont nous représenter de façon, avec une illustration magnifique, le lieu. Et là, on va avoir devant nous des portes aussi. Les cartes sont des portes, en fait. Chaque carte, on va les retourner comme on ouvre des portes. Donc, dans les lieux, on a à chaque fois 3, 4, 5 portes à ouvrir. Et derrière ces portes, bah, on trouve soit des monstres, soit des épreuves qui nous font perdre du temps, qui nous font des combats. Voilà, ça c'est pour le dispositif. Et maintenant, on peut se lancer dans le débrief. J'ai oublié un dernier truc, c'est le truc des cartes. Quand on arrive dans un lieu, comment il s'appelle le
Time Captain.
Voilà, c'est quoi ça le Time Captain ? Qu'est-ce qu'il fait ? Vous pouvez expliquer ?
En fait, il y a à chaque tour, on désigne Enfin, il est désigné par les tours. En fait, on fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
Ouais.
Mais il y a un Time Captain qui va déjà prendre les décisions. C'est-à-dire que si on n'est pas tous d'accord,
c'est lui qui a le dernier mot.
Ouais, c'est lui qui a le dernier mot sur l'endroit où on va aller, par exemple. Si on décide que y en a un qui est pas d'accord pour aller dans le dortoir, alors que tout le monde veut aller dans le dortoir, est-ce qu'on doit être tous d'accord ?
En fait, pour
ouvrir un nouveau lieu, on doit tous y aller en même temps.
D'accord.
On peut retourner chacun de notre côté après dans les lieux qui ont déjà été visités, mais par contre, quand on va découvrir un nouveau lieu, faut qu'on passe tous ensemble. Donc le Time Captain, déjà, il va avoir le dernier mot. C'est lui qui va dire bah, ok, bah, là on va là. S'il y en a deux qui sont pas d'accord, s'il y en a un qui est pas d'accord, bah tant pis pour lui.
Très bien.
Et donc, c'est lui aussi qui va lancer le dé parce qu'en début de tour, quand on va découvrir un nouveau lieu, le temps d'aller à ce nouveau lieu, ça va dépenser du temps. Et ce temps-là, c'est un autre dé qui va nous décider.
Oui.
Donc on va avoir soit un, soit deux, soit trois unités de temps qui seront dépensées pour aller sur ce nouveau lieu.
Voilà.
Et le temps, ça coûte cher.
Exactement. En fait, on a commencé à combien de temps ?
25.
Rapidement ? On a commencé à
25. Ouais. On a commencé à 25 temps. Donc, à chaque fois qu'on change de lieu, on lance un dé. Sur ce dé, on trouve... Donc, c'est pareil, c'est un dé à 6 faces. Il y a une face qui est terrible, où on perd 3 temps. Il y a 3 faces qui sont moyennes, on va dire normales, où on perd 2 temps. Et il y a une face qui est très cool, où on ne perd qu'un seul temps.
Voilà, ça arrivé une fois dans voilà. la partie.
Mais en moyenne...
On n'a pas fait 3, par contre.
On n'a pas fait 3. Donc, en moyenne, de toute façon, on va perdre 2 temps. Donc, découvrir un nouveau lieu, ça, c'est très important. Découvrir un nouveau lieu va, en moyenne, nous faire perdre 2 temps. Et on a commencé à combien, rappelle-moi
25.
Ça va très vite. Hein.
Ça va très vite.
Ça va très vite. Hein. Sachant que les actions nous font perdre du temps aussi. Enfin, rappelez-vous. Hein. Donc, 25, ça veut dire que potentiellement, on pourrait visiter, si on fait 2 à chaque fois, 10 lieux, faire 5 actions. Il y a 4 lieux. 1, 2, 3, 4, 5 lieux de base. OK. Et on en découvre au fur et à mesure.
Là, nous, on en a fait combien ?
On a fait le dortoir.
On n'a pas fait la cuisine.
On n'a pas fait la cuisine.
Ouais.
On a fait 9 lieux, je crois.
Mais c'est assez rigolo parce que moi, c'est la 3e fois que je fais une run sur cette, que je fais une partie.
Sur cette mission.
Et j'ai jamais eu la même partie, quoi. Je veux dire, le labyrinthe là qu'on a fait, sans faire un petit spoil.
Non, mais vas-y.
Le labyrinthe qu'on a fait, je l'avais jamais fait jusqu'ici.
Ouais. On a réussi à trouver. Faut raconter. Donc, en parlant à une doctoresse, on réussit à trouver un bureau dans lequel il y a un médecin qui nous dévoile un passage secret. On l'emprunte. Et là, en fait, les cartes, on doit retourner les cartes pour trouver l'issue de ce lieu. Et en fait, c'est un espèce de mini casse-tête qu'on va faire un peu. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez Ricochet Robot. C'est un jeu sur lequel chaque joueur est en train de jouer, en train de réfléchir autour du plateau aux meilleures options pour déplacer le robot. Enfin voilà. Et ça ressemblait vraiment beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'on était tous les quatre très concentrés sur l'énigme. Quand on avait l'idée d'une solution, il y en avait un qui devait dire « Ah, je crois que j'ai trouvé un truc !» Puis à un moment donné, toi ou je sais plus, c'est Anne-Cécile qui a découvert le poteau rose, qui a découvert une petite astuce en fait sur le truc, et ça a tout débloqué. Et j'ai trouvé que c'était des passages de mini-jeux très sympas.
Sachant qu'on pourrait refaire exactement ce passage de rentrer dans le cabinet, voir le médecin, et faire encore une version différente, puisque nous on a décidé de tabasser le médecin.
Oui, tout à fait.
Si ça se trouve, c'était vraiment un allié. Mais ne sachant pas, par prudence, on s'est privé de guide.
Ouais, on aurait pu essayer effectivement. À chaque fois, chaque carte, chaque lieu nous propose. Franchement, il y a des choix A, B qui sont vraiment très nombreux. Mmh. Donc au final, c'est normal, Guillaume, que tu aies cette sensation d'avoir jamais fait la même run. C'est très sympa. Je retrouve aussi dans le jeu ce côté que j'adore dans Unlock de. Tu retournes la carte et t'as de l'histoire derrière. Mmh. Et en fait, t'as une petite description, t'as un petit truc en fait qui va te dire voilà, vous arrivez dans tel lieu, il se passe tel événement, c'est un tel, il ressemble à ça. Et ça crée tout de suite une espèce d'ambiance. Immédiatement, moi, je vous ai proposé de mettre un petit peu de musique pour qu'on ait vraiment cette sensation d'être dans un scénario de l'appel de Cthulhu, parce que c'est vraiment ça. On est en 1920, dans un sénatorium. Enfin, voilà, on a tout le lore Cthulhu. Et d'ailleurs, on a même à la fin rencontré des créatures du mythe Lovecraftien. Donc, on est
sympathique. Là-dedans.
Pas très, très sympa. Ils nous ont carrément buté.
On est tous morts.
C'est le TPK. Donc, voilà. Et en fait, à la fin, et c'est ça qui est très rigolo, et c'est ça que j'avais pas compris au départ, mais c'est un peu un twist pour moi, c'est qu'à la fin de cette première, ce que t'appelles la run, c'est-à-dire la première déambulation dans le sénatorium, on n'avait plus de temps. Et là, du coup, en fait, c'est pas la fin du jeu. Moi, j'étais persuadé qu'en fait, on avait raté la mission et qu'en fait, on allait ranger le plateau, etc. Et là, tu me dis, non, c'est pas la fin du jeu, regarde, on va pouvoir relancer le chrono, repartir d'où on est parti et retenter en fait le truc.
Alors, c'est même pas d'où on est parti, hein. C'est on repart de zéro.
On repart, revient au début de la timeline.
On n'a plus aucun indice, on n'a plus aucun. Par contre, on a que les indices qui sont dans notre tête, quoi. Et là, maintenant, faut refaire le trajet, mais en mode efficace.
Il faut s'imaginer que là, notre besace, elle est pleine d'objets. On a une clé, littéralement, on ne sait pas à quoi elle sert. Moi, j'ai une ventouse pour déboucher les toilettes.
Mais ces objets, on les perd.
Ouais, on ne sait toujours pas à quoi ça sert et si ça sert.
Donc il faut aller chercher les objets dont on est persuadé qu'ils vont servir, qui sont indispensables, de manière efficace, donc se souvenir où on les a trouvés, dans les 9 lieux différents qu'on a explorés.
Ouais.
Et en plus de ça, éviter ceux dont on pense qu'ils ne nous serviront pas, mais qu'on n'a pas encore utilisés, dont on n'est pas sûr.
Ouais.
Et abandonner ceux où on est sûr qu'on s'était planté et qu'on n'aurait pas dû y aller.
Ouais.
Et se souvenir desquels c'est aussi, du coup.
Sachant qu'on a pris aussi, on peut aussi pendant la partie éventuellement prendre avec les smartphones. Là, moi j'ai pris quelques photos. Mmh. Donc j'ai quelques cartes en photo. Ça peut éventuellement même servir lors d'une nouvelle partie de se dire on peut chanter ce truc là parce que j'ai pris le cadre en photo. Alors ça, je sais pas jusqu'où, est-ce que c'est de la triche ou c'est autorisé.
Sur le truc, c'est.
Ouais. C'est-à-dire que celui qui était dans la capsule, techniquement, pourrait garder le souvenir de ce qu'il a vu. Ce serait pas déconnant.
Ouais.
Mais dans le sens où, comme c'est une capsule, tout est enregistré de toute façon.
Ouais. Donc, ça, je sais pas ce que les
dans
auteurs...
quelle mesure les indices photographiques ou.
Dans quelle mesure, en fait, on veut on être efficace,
considérer qu'on
est
très bonne mémoire
à zéro.
Ouais. Ça, je me pose la question.
Après, c'est un peu la manière dont on a envie de jouer, j'imagine. Plus que...
C'est-à-dire que sinon, il y a quand même de grosses chances que tu refasses encore et encore jusqu'à ce que tu connaisses le jeu par cœur. Et là, ça peut devenir quand
parce
même
que,
un petit peu lassant.
Clairement, à la fin, il y a carrément des actions qui. Coûte deux fois plus de temps.
Oui. Ouais.
Donc en fait, c'est même à la fin, en fait, quand tu refais ta deuxième run, faut courir, faut que tu ailles à.
Ouais, c'est un speedrun en fait le dernier.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ouais, je pense que t'as juste le temps. Moi, je pense que les 20 minutes, enfin les 20, pardon, 25. Les 20 unités de temps, 25 unités de temps, je pense que c'est juste ce qu'il faut pour faire les actions qu'il faut pour terminer le scénario. Et alors ça, Guillaume, toi, est-ce que tu as fait plusieurs scénarios de ce jeu? Est-ce que tu as déjà refait des runs derrière?
En fait, en vrai, pour l'instant, j'ai changé à chaque fois les personnes avec qui je jouais.
Bah oui.
Du coup, je suis reparti sur le même scénar. Donc, c'est la troisième fois que je fais. C'est pour ça que je disais que je n'ai jamais fait trois fois la même partie avec ce scénario-là.
Ce scénario-là. Que... Puis en plus, à chaque fois, tu oublies aussi toi
en
tant que joueur.
Ouais, parce que là, la dernière fois, c'était il y a 4 ans, quoi. Donc, j'ai eu le temps, je me souvenais de rien.
Ouais.
Donc, mais par contre, c'est vrai que j'aimerais bien.
Passer un autre scénario.
Passer un autre scénario. C'est gâché.
Oui, mais il faut aller jusqu'au bout de celui-là.
Par contre,
il
faut le finir celui-là.
Ok. Du coup, là, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que après ce rapide débrief, peut-être essayer une autre de refaire en fait une partie et de reprendre les micros, mais après je sais pas jusqu'où est-ce que vous voulez partir dans cette nuit, mais s'il y en a qui bossent demain, ça va être compliqué parce que il est quand même là, il est quelle heure, il est déjà 22h50, hein, il est déjà 23h. C'est ça, en fait.
C'est vrai que ça ramène très très loin à chaque fois.
Ouais. En fait, c'est un jeu qu'il faut commencer, je pense, en début d'après-midi.
C'est ce que je disais tout à l'heure.
Ouais. Ou faire une nuit blanche dessus, éventuellement.
Ouais, alors c'est ce que.
Ouais, toi, tu disais plusieurs jours.
En fait, c'est dans la mesure où ça fait un peu comme des saves. Si t'as les moyens de laisser ton plateau comme ça, tu reprends le soir d'après, en fait.
Mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve qu'il faut avoir vraiment l'expérience sur le moment pour pouvoir réutiliser ce que tu sais pour réussir. À mon avis, d'une journée sur l'autre, tu oublies les éléments intéressants.
Du coup, téléphone et notes.
ouais. Donc, pour moi, le jeu, il suppose d'utiliser les smartphones et tout. Tout à l'heure, je parlais de Space Cowboy. Je pensais à Sébastien Pochon aussi, dont j'ai retrouvé le nom en faisant une rapide recherche sur Internet. Moi, je les ai connus parce qu'en interview, ils avaient dit que les narrativistes branlaient du manche. Ça nous avait fait beaucoup rigoler parce que les narrativistes, c'était nous. Et donc, ça nous avait fait beaucoup marrer. Et donc, cette interview, je la connais bien. Et du coup, c'est pour ça que je pensais à eux. Mais j'ai vu que c'était d'autres auteurs. Est-ce que tu peux me passer pour qu'on les cite? Et des joueurs de jeux vidéo. J'ai vu notamment donc l'auteur du jeu, donc Manuel Rozoy, c'est un joueur. Il a travaillé en game designer chez Ubisoft. Et j'y ai retrouvé effectivement, je sais pas ce que vous en pensez, mais pas mal de mécaniques de jeux vidéo aussi. Mmh, est-ce que vous avez fait le Zelda sur Nintendo 64 qui s'appelle Majora's Mask?
Oui.
Toi, tu l'avais fait celui-là?
Il y a eu un remake, c'était sur.
Exactement.
Ouais, DS, il me semble.
Sur DS, il a été refait.
J'ai fait celui-là, ouais. Et effectivement, tu as besoin d'avoir les capacités débloquées à chaque fois pour avancer, en fait.
Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est un jour sans fin. Et donc, on est tous les. Enfin, c'est trois jours sans fin avant la fin du monde. Tu retournes toujours avec l'Ocarina du Temps, tu fais une chanson qui va te remettre trois jours avant la fin du monde. On est vraiment exactement dans ce trip. Tu reviens dans le temps, il y a une faille temporelle qui va avoir lieu. Là, on se doute de ce qui va se passer, en fait. C'est que ce sont des cultistes, ces gens. Ils vont faire un rituel. Et ce qui va se passer, c'est que le monde va sombrer dans le chaos, il va se faire bouffer par Shub-Niggurath ou Nyarlathotep, et on va sans doute perdre la... Et donc, les Time Cop... non, c'est pas des Time Cop, c'est comment on s'appelle, des Time...
Captain.
Les
unités de temps.
Notre équipe a pour objectif d'empêcher les grands anciens de réaliser leur plan, et donc on va les empêcher de gagner. Et donc du coup on revient dans le temps pour empêcher le rituel d'avoir lieu. Donc ça me fait beaucoup penser effectivement à ce truc là quoi.
Moi j'ai aussi temps. Alors je sais pas, mais j'ai beaucoup joué des jeux de point and click justement les énigmes, tous les Monkey Island ont été pensés à 120%. Je retrouve complètement cette dynamique là, c'est-à-dire chope tous les objets que tu peux trouver, tu pourras peut-être les associer à quelque chose et essaye d'interagir avec ton environnement pour débloquer de nouveaux chemins ou de nouvelles solutions.
Exactement.
Avec des conversations absurdes avec des fous et
ouais, c'est ça. On se prend dans Discord ou ce genre de truc où tu vas effectivement de tableau en tableau rencontrer des gens et qui vont donner des indices. Tu vois, Benjamin Carré aussi, la joie, donc c'est illustrateur. Il a parmi les trucs qu'il cite, Star Wars, Mass Effect, tu vois, c'est Alone in the Dark 4. Alors, Alone in the Dark 4, les musiques que vous avez entendues ce soir, ce sont des musiques de Alone in the Dark 4 que j'ai passées. C'est vraiment parmi les sources d'inspiration. On sent tout de suite, quand on est descendu dans les souterrains, je vous ai dit, là, c'est Alone in the Dark, quoi. Vraiment, il y a ce côté, même le design, l'illustration. Je vous rappelle que donc c'est l'illustrateur Benjamin Carré. On voit qu'il s'est vraiment inspiré de Alone in the Dark 4 à fond. Il précise bien Alone in the Dark 4. parce que les autres, évidemment, il cite Néphilim, Rétro-Futur. Rétro-Futur, oui, il y a tellement du Rétro-Futur aussi là-dedans. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment des joueurs de jeux vidéo. On sent que. Et donc Peggy Chasney, David Locossu et Pascal Kido aussi qui citent. Des jeux vidéo dans leur source d'inspiration, donc on a vraiment ce côté point and click, etc.
Et moi j'apprécie beaucoup d'ailleurs le fait qu'ils aient travaillé l'esthétique. C'est vrai que pour l'immersion dans le jeu, ça joue beaucoup, à mon sens.
Ouais.
C'est vrai que quand il y a le docteur pervers qui te saute dessus, il a la goutte sur le front et tout.
C'est le regard de travers.
Mais... il y a le côté... même les personnages sont travaillés. Tu sens... Enfin, je veux dire, les joueurs de cricket, ils ressemblaient trop à Orange Mécanique. Oui. Tu dis qu'ils vont se casser la gueule, que ça va être la baston et tout. Mais non, ils veulent vraiment jouer au cricket. Il y a vraiment... le jeu te piège et les illustrations te piègent aussi.
Alors, en plus, il y a un travail de mise en scène qui est donc de BD en fait. Parce que, donc, faut imaginer que les cartes sont recto verso. Sur la carte, sur le recto de la carte, on a par exemple le docteur. Il est loin. Il est à côté d'une étagère. On regarde, il a un petit sourire. Est-il un séducteur ? Mmh. Voilà. Tu vas dire, bon, allez, moi, mon personnage va parler à ce docteur. Qu'est-ce que tu fais ? Du coup. Une fois que chacune a décidé de ce qu'il allait faire dans la salle, chacune prend la carte. Et là, on la retourne. Et ce qui est rigolo, c'est que le docteur, avec son petit sourire de loin, hein, quand tu le retournes, il se transforme en Patrick Bruel. C'est-à-dire que d'un seul coup, t'es confronté à... en fait, d'ailleurs, regarde la carte, elle est en gros plan. Donc ça suppose que tu t'es rapproché, oui. Puisque on parle du lointain et on arrive au gros plan. Donc on est vraiment comme dans la BD où il y a une case éloignée et une autre case qui suggère d'un coup un surgissement en fait dans sa zone de confort du docteur qui va nous agresser, parce que c'est clairement une agression hein,
oui.
que tu vis.
C'est décrit de cette manière.
C'est décrit
d'ailleurs.
De cette façon-là. Donc c'est très intéressant, tu vois, même sur la mise en scène. C'est-à-dire que le fait qu'ils exploitent à fond le recto et le verso des cartes pour créer un sentiment de proximité ou de surgissement de l'horreur. Oui. Ce qui est là aussi, tu vois, je lisais tout à l'heure la bio de Carré et de Chasnay et le Cossu, tu vois, le Cossu, il a fait les Beaux-Arts et on voit vraiment ce travail-là esthétique de chaque carte. C'est ça qui fait cette sensation très forte d'esthétique, etc. Alors derrière, après, il y a toutes les énigmes ésotériques avec les pentacles, les machins et tout ça, où là, il y a un vrai côté Cluedo, jeu de société, énigme. On a parlé du labyrinthe. On n'a rien compris, là.
On n'a pas eu le temps de voir les indices. On n'a pas les... Il nous manque plein de choses.
Ouais.
Moi, pour moi, c'est ma limite de l'amour du jeu. C'est qu'il y a une richesse terrible et je suis frustrée à un point que je n'arrive pas à contrôler de ne pas pouvoir en profiter, quoi. Alors, mais parce qu'il est pensé pour être joué de multiples fois. Mais
est-ce que ça ne deviendrait pas lassant, tu vois ? Moi, je me pose la question aussi. Tu vois, une fois que tu as fait une run comme ça, il y a un côté... vous êtes sûr, là, on s'en fait une deuxième ? Enfin, c'est la question, c'est je me pose... c'est pour ça que j'ai envie presque de poser les micros, de faire peut-être 20 minutes d'une autre partie et de les reprendre derrière, si on a le temps, là. Ouais. Ça vous dirait ou pas ? Bon, on essaye ?
Allez.
Est-ce que
c'est maintenant.
C'est facile de remettre en place ou pas ?
Là, maintenant, les cartes, le plus gros effet.
Hein. Ouais. Allez, vas-y, on tente. Allez. On repose les micros. C'est la première fois qu'on fait ça. On va reposer les micros, on retente une reine, et puis on s'arrête... On est dans la première salle, donc je prends le micro pour décrire ce qui se passe. Donc là, on est sur la run numéro 2, on est dans la première salle et déjà, on est en train de se poser des questions. N'hésitez pas à prendre les micros si vous voulez. Donc déjà, premier élément, c'est les 25 points de... Alors déjà, il y a un truc qui me plaît beaucoup là dans ce qu'on est en train de faire, c'est que, en fait, comme chacune connaît le jeu maintenant, on est tous en train de faire des choses autour de la table. C'est-à-dire que moi, je viens de remettre le jeton sur 25... on a remis les petits papiers. Voilà, on sait. Ah, regarde, ça on a le droit. Non, regardez le symbole.
Oui, les plans, on a le droit de les garder.
Pas tous. On a le droit de garder le docteur.
On peut directement aller dans le chemin du passage secret.
Voilà. Alors, il y a un autre truc aussi, c'est que quand on a fini la run, notre chef instructeur, donc celui qui nous a mis dans les capsules et qui nous a demandé d'effectuer la mission, donc le commanditaire, il nous a dit vous pouvez garder les indices qui ont un logo particulier, le logo de l'entreprise pour laquelle on travaille. Donc là, du coup, on sait maintenant que les lieux sur la grande carte, vous savez, la carte qui ressemble à une truc d'incendie, là. Cette grande carte-là, on vous a dit, il y a plusieurs lieux qui s'explorent, et dans ces lieux, plusieurs cartes qui s'ouvrent. Et bien, ces lieux-là, on va les garder. Donc là, par exemple, le docteur, le fameux passage secret qu'on a découvert, et bien, on va le garder. Donc, il considère le jeu... On a la mémoire, en fait, du passage secret.
Et littéralement, c'est encore une invitation au speedrun, puisqu'on n'a plus besoin de passer par l'infirmerie.
Voilà, on peut chinter directement, effectivement, un élément. Ouais. Oh là là, mais c'est génial, en fait. Alors là, tu vois, pareil, cet hommage que le jeu rend au speedrun, ça, c'est très vidéoludique aussi, dans le design.
Oui, il y a le côté try and die aussi.
Try, c'est ce que tu disais. Ouais. Exactement, ouais, tout à fait. Donc, là, du coup, on est dans la pièce... Donc là, on se réveille. Dans la pièce... donc, on est des voyageurs temporels et nous réveillons dans la salle de repos, me semble-t-il. Hein, c'est ça ?
C'est ça.
Et il y a quand même une petite chose amusante. C'est qu'on a une carte de fin de mission à lire si on échoue pour la deuxième fois.
Oui, et attends, mais on en a plein. Hein. Il y en a plein.
Ça change un peu
si la mission elle est ratée.
Parce que ce sera plus le même message que la première.
Ah, mais attendez, regardez, à chaque fois on garde des éléments différents. En fait, je pense qu'il nous autorise à garder des éléments différents.
Oui.
Et alors, donc, plus ça va, plus on a d'éléments en fait. Mais c'est trop marrant comme jeu. Ok, d'accord.
Parce qu'envie de rater beaucoup.
Bah, en tout cas, de tenter le speedrun. Là, j'ai vraiment envie de tenter le speedrun.
Je pense qu'en vrai, il y a aussi des malus. C'est que vu que ça coûte de l'argent, visiblement, de retourner dans le passé.
Oui, après,
il va nous mettre des bâtons dans les roues.
Attends, vas-y, raconte ça, Anne-Cécile. J'ai pas entendu. Pourquoi tu dis qu'il va nous mettre des bâtons dans les roues?
Si on commence à rater trop, on va avoir des malus. Peut-être qu'on aura moins de temps pour faire.
Parce qu'il y a du scoring, en fait, dans le jeu.
Ce qu'il nous dit,
en gros, c'est que nous envoyer dans le passé, ça coûte très cher.
Et que notre grade va en pâtir si on rate trop. Donc si ça se trouve,
en fait, c'est dans l'idée où tu fais d'autres scénarios après, tu auras des récompenses à la fin pour faire d'autres parties.
D'accord, ok. Mais du coup, Guillaume, là, le jeu que tu as, c'est le scénario du scénario de Thorium uniquement
Après, t'as des extensions qui vont te permettre de jouer d'autres scénarios avec.
Parce que voilà, t'as qu'un seul scénario dans le Time Stories de base. Et c'est celui qu'on est en train de faire là.
C'est ça.
Ah oui, donc quand même, t'as pas d'autres scénarios derrière. Ouais, ok. Donc la rejouabilité du jeu, c'est quand même de...
Sachant que je suis très inquiète, parce que là, on parle de tenter le speedrun, mais je pense que de fait, il va nous manquer des objets.
Ça m'intéresse. Alors réfléchissons. Donc, on est d'accord qu'on a le passage secret du cabinet du docteur Hyacinthe. Donc ça, on sait qu'on peut y aller. Le passage secret nous permet d'accéder dehors.
Directement à l'extérieur.
À l'extérieur.
Ouais. Mais je pense par exemple aux deux pierres précieuses qu'on a trouvées. C'est forcément pas un hasard. Je ne comprendrai pas si elles ne servent à rien.
D'accord. Sachant qu'à un moment donné, sur le tableau de la jeune dame là, on nous a parlé des larmes de la Manticore. Donc là, on pourrait gagner tout de suite énormément de temps en disant, par exemple ici, on se dirige directement vers le cabinet du docteur Hyacinthe.
Là, on serait directement à l'extérieur, oui.
Là, on serait directement à l'extérieur. Mais qu'est-ce que ça nous apporte d'être à l'extérieur ?
De toute évidence, le bon chemin, c'est d'aller au kiosque et d'aller trouver les cultistes.
Clé du kiosque, elle était où ?
Faut choper Jules parce
que c'est après. Est-ce que tu veux les bonus ? Est-ce qu'on veut le maillet pour avoir un bonus de truc ? De force ?
Le maillet coûte cher en vrai.
C'est ça, c'est beaucoup de temps. Est-ce qu'on en a besoin ? Ou est-ce qu'on veut aller directement chercher les pierres précieuses ? Est-ce qu'elles nous servent ? Mais on le sait pas, on l'a pas encore utilisé.
Ouais, tu vois, c'est ça.
On n'avait pas tous les éléments de l'enquête. Ce qu'on a compris, le pentacle, il nous faut quand même 5 réponses.
On n'en avait que 3.
Le maillet, on le trouve au genre de croquet.
C'est ça.
Le rubis, on l'a trouvé dans le casier. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre dans le casier ?
Une ventouse.
Une ventouse qui sert à rien.
Globalement, qui m'a pas servi.
En soi,
qui sait ? Problème de plomberie.
On n'est pas allé dans la cuisine.
Ça peut peut-être servir sur Patrick Bruel. On est OK. Donc, le casier, ça sert à rien.
Ça dépend si le rubis sert dans l'énigme ou pas.
Parce qu'on trouve.
Et après, ça ne coûtera pas plus cher de faire un déplacement sous le cirque, le kiosque,
c'est vrai,
que de faire un déplacement pour y aller de base. Donc autant aller directement là-bas
et voir ce qui nous manque.
Voir si ça nous.
Alors, attention.
Pourquoi ça ? Faut expliquer.
Sur la map, en fait, quand un nom est marqué en rouge, ce qui est le cas de la descente sous le kiosque, partir te coûte 2 temps de plus parce que ce sont des zones dangereuses.
D'accord.
Pour éviter,
suréviter ça.
Ce genre de
parce qu'en fait, je sais pas si on l'a. On a expliqué que ça coûtait. Ça, on ouvre un lieu, ça nous coûte du temps, mais par contre, y retourner, ça nous coûte
ça
pas
nous
de
coûte
temps.
Ça nous coûte pas de temps. Voilà, c'est ça. Je voulais qu'on réexplique ça pour que ce soit bien clair pour les auditeurs et auditrices. Voilà, c'est ça. C'est, donc là, on est en train de se poser la question, voilà, est-ce qu'on peut aller directement à la fin ? Et comme ça, en fait, quand on revient en arrière, ça nous coûte moins de temps.
Ça peut être aussi un choix de faire plusieurs runs. On sait qu'on va rater, on va voir ce qu'il va nous falloir pour la fin,
c'est
et ensuite le troisième, on va chercher
allons
directement
mourir
les éléments qu'on veut.
Exactement. Non, mais là, j'étais en train de me dire, vas-y, on va directement affronter les monstres. On n'est pas rentré dans la cavité en bas.
On n'a pas eu le temps.
On n'a pas eu le temps.
Et on est mort.
Vas-y, on exploite ce truc. On va à la baston avec les monstres.
Et je comprends mieux.
Farcir la manticore avant. Mmh,
oui, ça nous a coûté un peu.
La proposition de fait de changer de personnage. C'est-à-dire, j'envisage une partie où je vais juste aller casser des gueules jusqu'à la fin,
ouais,
sans avoir les indices. Et donc, peut-être ne prendre que des bourrins pour refaire une partie ensuite avec des personnages qui auront plus d'adresse pour voler, qui auront plus de tchatch pour... etc., etc.
Moi, tu sais, ce que je trouve fascinant, Claire, avec ce qu'on est en train de vivre là, en fait, c'est que ça montre aussi la limite du podcast One Shot. On en a parlé, je sais pas si t'as écouté le podcast, parce qu'il est sorti aujourd'hui même, le podcast sur la communauté, le destin de la communauté.
Non, celui-là,
non. Mmh. Voilà. On a fait un playtest du destin de la communauté, puis après, on a fait une campagne. Ça nous a permis de réaliser des choses. Là, tu vois, par exemple, tu fais une partie de ce jeu-là, tu réalises pas en fait le maelstrom que propose le jeu. Parce qu'en fait, nous au début, là, on était dans l'exploration. Pour moi, tu vois, tu m'aurais décrit le truc. Enfin, tu m'aurais demandé de décrire à quoi c'est quoi le jeu. Je t'aurais dit, c'est un jeu d'exploration. On explore des lieux, on découvre des cartes. Ça raconte une histoire. Tu vois, c'est un jeu d'enquête, c'est un jeu d'énigmes. Mais en fait, non. Tu vois, là, le maelstrom qu'on est en train de vivre en ce moment et ce qu'on est en train de se dire là, la façon dont on explore le jeu, c'est plus du tout la même. On est dans une espèce de niveau méta où on est en train de réfléchir à comment on peut casser le jeu
comment
maintenant.
Comment hacker le jeu, c'est voilà. Ça. Quelle stratégie.
On n'est plus du tout dans le roleplay, on est dans tout à fait autre chose. Là, on est vraiment dans du ludisme pur et du speedrun pur, à étudier des runs, effectivement. Est-ce que le mot run fait partie du vocabulaire du jeu ou est-ce que c'est toi qui l'as introduit?
Moi, je l'ai introduit, je sais pas, mais je l'ai pas lu.
Je crois pas l'avoir lu.
Parce que la run, c'est vraiment un truc du speedrun, ça, hein, pour le coup. Mon ami Yann
un
Chauvière,
mission,
qui a animé pendant des années 88 miles à l'heure, connaît
un
ça
deck
par
pour
cœur.
Un scénario.
Non, il n'y a pas le mot run.
Je ne le
dedans.
Vois pas pour l'instant.
Parce que vraiment, là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, on est en train de réfléchir à ce qu'on appelle des routes. On appelle ça des routes dans le speedrun.
Okay. Déroulement d'un run. C'est
déroulement
bien marqué,
d'un run, c'est bien écrit. Voilà. Parce que, pourquoi je te dis ça ? Parce que là, le fait qu'ils introduisent en fait ce vocabulaire-là, ça montre que vraiment, ça fait partie
c'est
du maelstrom qu'ils proposent. Et c'est ce qu'on appelle des routes, en fait. Là, ce qu'on est en train d'établir ensemble, ce dont on est en train de se parler là, c'est de routes. Est-ce qu'il faut passer par le dortoir avant d'aller là ? Est-ce qu'il faut récupérer les munitions, c'est dans Metroid, Super Metroid, par exemple, qui est un jeu qui a été énormément speedrunné, notamment par un Rennais là, qui s'appelle Brothermain. Et il se pose la question, mais est-ce qu'il vaut mieux passer par cet endroit-là avant d'aller passer là parce que du coup, je gagne quelques secondes sur ce machin là. Et ça, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là.
Et littéralement, je pense que le prologue est là pour ça. C'est-à-dire qu'on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il nous enquiquine avec 5 cartes à décrire longuement sur le pré-scénario, mais l'intégralité des interactions de ce prologue sont sur le temps perdu.
Ouais, exactement. Et alors, ce qui est rigolo aussi, c'est, on l'a pas dit, mais le Time Cop, il est pas censé lire les cartes qu'il, enfin, on n'est pas censé lire les cartes, on est censé les décrire à la façon d'un jeu de rôle. Là, la question que je me pose à ce stade, c'est l'interaction qu'il va y avoir entre ce désir de speedrunner, en fait, le jeu, et donc d'aller vers des routes, et l'ambiance qu'on a trouvée au début, c'est-à-dire que là, d'un coup, est-ce qu'il faut couper la musique de Cthulhu ? Est-ce qu'on est toujours en train de jouer à Cthulhu ? Est-ce qu'on est toujours dans un univers Lovecraftien ? Ou est-ce que là, on est dans un univers plutôt vidéoludique où on clique sur des cases et on se contente d'aller très très vite ? Et c'est ça, je me demande quelle interaction.
L'intro parlait de ça, du fait qu'il ne voulait pas choisir entre jeu de rôle et jeu de plateau. Peut-être que c'est aussi parce qu'on peut vivre plusieurs expériences différentes. La première partie me semble très axée jeu de rôle parce qu'on prend notre temps.
Voilà.
Oui, et après... Peut-être qu'on va refaire des... Parce qu'on n'a pas... Il y a des lieux où on n'est pas du tout allé. Peut-être qu'on va retrouver ce côté-là une fois qu'on refait des lieux qu'on n'a pas... Et le début, on va effectivement, comme on le connaît, on va passer très vite.
Ouais. Mais c'est rigolo de voir la différence quand même entre la première partie et la deuxième. Et l'abord même... Comment on aborde le plateau dès maintenant. Bon, allez, je recoupe le micro et on reprend.
Claire est morte.
Claire,
mais pour
envie
de vrai,
tricher.
Parce qu'on est tous morts.
Je meurs d'envie de tricher.
Claire, t'as envie de tricher.
J'ai vu que alors, tricher.
Donc je vous signale qu'on a triché. Mais volontairement. Hein. À un moment donné, on a quand même. On est revenu en arrière sur un play. On a décidé de diviser le groupe alors oui. qu'on s'était mis à 1 dans la serre.
Ah oui, on pouvait pas
pour récupérer un pentacle.
On a décidé de se mettre. On était en groupe de 4. On a décidé. Sur cette run, on a été au bout du scénario. Et qu'est-ce qu'on trouve au bout du scénario ?
La mort.
La mort. En fait, c'est pas illogique, en fait. Dans un jeu, il y a ce qu'on appelle des murs. Dans un jeu vidéo, il y a ce qu'on appelle des murs invisibles, en fait. Et là, je pense qu'on est typiquement devant une espèce de mur invisible. Si on va trop vite à la fin du jeu sans les indices nécessaires, eh ben, on se heurte en fait à des migots, à des conneries là au fond des trous et ils nous butent en fait.
Voilà, c'était fait pour.
Donc ce que je trouve intéressant au terme de cette deuxième run, c'est que je pense qu'on a exploré deux aspects du jeu. Tiens, est-ce que tu pourrais nous lire la carte quand même ? Voilà, on a fini là.
En fait, je sais pas si ça rentre dedans du coup.
Ah, vas-y,
parce que
Guillaume.
Ce qu'il y a décrit, c'est si vous avez échoué une deuxième fois par manque de temps.
Ah oui.
Et c'est pas notre cas.
On vient de se faire tuer, oui.
On vient de se faire tuer, tous.
Ah,
donc ça doit être une mission ratée, non ?
Eh ben, je sais pas.
C'est quoi ?
Après, il y a plusieurs missions ratées. Mission ratée rouge, il y a la mission ratée violet.
Y a donc pas... rouge parce que en combat. Non.
Alors, je sais pas. Du coup, on sait pas quoi faire, là.
Je sais pas.
Si on meurt tous, il y a quoi ?
Voilà. Bon, bah, écoute, je te laisse regarder ça clair pendant ce temps-là. Moi, j'ajoute un petit élément qu'on n'a pas précisé, et c'est vrai qu'il fait bien jeu de rôle, c'est que quand on retourne une carte, ou quand on va dans un lieu, on a une carte qui nous fournit une description du lieu à la façon d'un jeu de rôle. J'avais pas noté ça la première fois, mais c'est « Vous vous laissez glisser dans le trou gardé par les étranges créatures et débouché par le plafond. » C'est vraiment fait comme un MJ dirait à DPJ, quoi. Vas-y,
donc si tout le monde meurt, c'est bien la mission ratée.
Ben alors, vas-y, qu'est-ce qu'il nous dit du coup, le gars ?
Qu'est-ce qu'il nous dit ?
Il nous dit quoi ?
Bob est là à votre réveil, mais il n'est pas content. Pour tout dire, il fulmine. Mais c'est pas possible. Qui c'est qui m'a foutu des empotés pareils ? Sérieux, les gars, vous acceptez de participer à un rituel alors que votre mission était d'empêcher la formation d'une faille temporelle ? Je peux vous garantir que ça va faire tache sur votre CV. Un coup pareil.
Mais
au
c'est
moins,
pas la bonne,
vous avez
en fait.
Découvert la crypte où ah, tout semble
la...
se passer.
C'est pas la bonne, parce qu'on n'a pas participé au rituel.
Ah, c'est... Est... Non, mais c'est marrant, ça.
Non, c'est pas celle-là.
Ça veut dire... Non, c'est rigolo.
C'est UT. C'était la UT à lire.
Ouais. C'est la UT ?
Ouais.
Si, on est tous morts. Du coup, c'est si par manque de temps, c'est la même chose, en fait.
Oui.
Bon, bah alors du coup, c'est.
Alors qu'est-ce qu'il dit du coup
sur non, mais c'est marrant,
ça veut dire qu'on aurait pu faire le rituel nous-mêmes.
Exactement.
C'est pour s'exprimer.
En fonction de la façon dont on crève, on n'a pas la même narration. C'est très drôle.
Donc là, c'est allez, réveillez-vous, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Ces missions coûtent énormément d'énergie à l'agence, alors n'en rajoutez pas. J'espérais ne pas en arriver à ça, mais là, c'est trop risqué. Je suis obligé de déclencher le protocole d'urgence. Allez, Ansel. Donc là, en fait, vous pouvez laisser en place les éléments estampillés comme au premier, comme à la seconde run.
D'accord.
Mais le reste du jeu est entièrement réinitialisé.
Oui,
donc en fait, plus on run, plus on garde des éléments quand même.
Ouais.
Ok.
Tu as 5 unités de temps en plus
au
départ.
Ah, on gagne du temps. On est trop mauvais, nous
sommes
du temps.
Si on atteint à nouveau 0, on continue. Le marqueur de temps est déplacé normalement 60, 59, 58, etc. Mais votre évaluation en pâtira.
Ah d'accord.
En gros, sur la troisième run, t'as plus de marqueur temps.
En fait, c'est notre score de fin qui descend en fait.
C'est assez marrant parce que donc j'ai l'impression qu'on a fait deux extrêmes en fait ce soir. On a fait la première partie, on a joué vraiment immersion, musique, ambiance. Les éléments, nanana. La deuxième partie, on a fait totalement l'inverse. Zéro musique, zéro roleplay, on n'a pas du tout roleplay, que dalle. On a vraiment appuyé sur des boutons, en fait, et retourné des cartes avec l'idée de... On récupère
le plus
ça
vite possible. Et pourtant, on a perdu plus de temps plus rapidement que sur le premier run.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans la fiction, on a perdu du temps. Mais par contre, en termes de durée de jeu, combien de temps ça a duré la partie, là ? Un quart d'heure.
Il doit être 11h15.
Ouais. Quelle heure il est là ?
Il est 43.
Il est 43.
On a fait 20 minutes de
on
jeu.
On a fait
quoi.
20 minutes de jeu, vous vous rendez compte ? Et on est mort. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment été au bout de ce qu'on pouvait faire.
Il nous on est mort, il nous restait 3 minutes de temps.
Ouais. Aussi, hein.
Ouais, on a dépensé tout notre temps en 10 minutes.
Enfin, c'est quand même rigolo. C'est-à-dire qu'on a fait vraiment deux types de parties du jeu très différentes. Une partie immersion, roleplay, jeu de rôle, machin. On a ambiance, truc. Et une partie vraiment clic, vas-y, go.
Par contre, là, ce qu'on découvre, c'est que la frustration de Claire qui ne peut pas tout explorer, si on décide qu'en fait notre score, parce qu'on ne fera pas les autres missions, nous importe peu, on peut vraiment explorer sur le troisième run.
Ouais. Parce que le jeu se fout littéralement de notre gueule. C'est-à-dire que tu fais d'abord l'immersion, il te dit non, ça ne marche pas. Tu fais le speedrun, il dit elle non plus. Et en fait, tu es obligé de faire un savant mélange des deux.
Un savant mélange des deux, ouais. Sachant que quand même, les informations que tu as récupérées lors des deux runs précédentes te permettent d'explorer correctement. Néanmoins, alors le jeu est bien écrit, hein, c'est-à-dire que vraiment, en fonction de ce qu'on fait, j'ai adoré le moment où on arrive dans un lieu et où en fonction de la façon dont on est arrivé dans le lieu, il y a une carte différente, c'est-à-dire que la description qu'on va avoir en fonction de ce qu'on a fait déjà est différente. Donc ça, il y a vraiment un travail d'écriture qui a été fait. Néanmoins, je trouve quand même que le jeu... Moi, j'ai préféré la première partie, en fait.
Oui, moi aussi.
C'est ça, ouais.
Tu vois, je trouve que le jeu, même si c'est intéressant, le côté speedrun, machin, je trouve qu'il perd en saveur. Le scénario perd en saveur au fur et à mesure qu'on le... C'est un peu comme un sachet de thé ou une tisane qu'on repasse dans l'eau. Et au bout d'un certain moment, ça finit par être que de la flotte, quoi. Il y a un côté, bon, à un moment donné, les mécaniques et tout... Ça finit par être un peu lassant. Tu vois, je sais pas si là j'aurais envie d'en refaire une troisième partie.
J'aurais presque envie parce qu'en fait, il nous explique que le troisième run, le temps ne compte plus. C'est, on peut en perdre autant qu'on veut, on aura une mauvaise note peut-être, mais on peut explorer autant qu'on veut. On va pas retrouver à zéro et revenir à la capsule.
Ouais, mais est-ce qu'il va pas y avoir un petit côté on clique là parce qu'on n'a pas encore cliqué là.
Claire disait qu'on avait une frustration sur pas pouvoir explorer. Oui. Là, on pourrait explorer.
Mais ma version idéale serait en fait la première sans limite de temps. Moi, j'ai pas besoin de cette adrénaline-là, quoi. Par contre, je suis terriblement frustrée de devoir renoncer à tout le temps.
Mais en même temps, l'horreur lovecraftienne, parce que moi, je la vois venir, l'histoire-là. L'agence pour laquelle on travaille, c'est certainement pas des humains qui la dirigent. Vous voyez ce que je veux dire si vous connaissez Lovecraft, vous savez très bien que dès que ça se passe dans l'espace, et voilà, il y a un grand ancien derrière, il y a des migos, il y a des machins qui trifluent des cerveaux des humains. Enfin bref, on est dans du Lovecraft, tu vois. Donc, je vois bien où ça va. Mais... En fait, pour l'horreur, Claire, s'il n'y avait pas cette dimension temporelle, on perdrait quelque chose. Ouais. Le fait qu'on court après le temps, ça nous pousse aussi à faire des choix,
des erreurs.
Alors que moi, mon plaisir, ça aurait été d'aller voir le mec qui danse dans le jardin avec les yeux en l'air, à moitié fou, et discuter avec lui, quoi.
Mais après, ça, c'est plutôt... C'est pas tellement le jeu, là, qu'on est en train de juger, pour le coup, mais c'est plutôt ton goût. C'est tes goûts personnels.
Ouais.
C'est-à-dire que là, tu dis... Ce que tu es en train de nous dire, c'est que moi, ce que je préfère, c'est les jeux de société plus contemplatifs, du type des jeux de rôle, etc., plus que des jeux de speedrun ou...
C'est ça. Moi, je suis frustrée de ne pas pouvoir explorer, mais c'est complètement personnel.
Là, je retrouve des mécaniques un petit peu comme des space alert ou des choses comme ça, où le groupe se met d'accord sur des stratégies et en fait, ils explosent en plein vol parce que les dés, parce que machin.
On a vraiment explosé, là.
Voilà, on a explosé. Ouais, mais on a explosé rapidement, donc au final, c'est pas tellement frustrant,
non.
En fait.
Non. Puis on l'a pas pris au sérieux, donc...
Voilà, ouais, c'est vrai qu'on l'a pas pris au sérieux. J'ai noté aussi quand même un côté, peut-être, alors ça je vais me tourner vers toi Guillaume pour le savoir, mais il y avait beaucoup de manipulation de cartes quand même là, du coup, vu qu'on allait très très vite. Est-ce que c'était pas un peu chiant ça? Je me demandais...
Comme on sait déjà où elles sont, en fait t'as presque plus envie d'aller retourner les nouvelles, tu vois. En fait, quand t'es... Je me suis remarqué quand on a remis les anciennes cartes, on est arrivé dans les régions qu'on connaissait déjà, on n'a même pas cherché, on est allé sur les cartes qu'on connaissait déjà, même les bonus, on n'est pas allé chercher, on est allé directement pour aller à l'essentiel. Et quand on est arrivé sur des nouvelles cartes, on était presque sur une nouvelle zone, il y avait des nouvelles cartes, on était presque comme ça en fait, c'est-à-dire, est-ce qu'on fait vraiment tout ou est-ce qu'on va se concentrer sur une case pour continuer à faire du...
Pour aller le plus loin possible en fait, on s'était vraiment dit on va le plus loin possible sur cette partie-là, mais parce qu'on l'avait décidé aussi de cette manière, si on s'était lancé dans un truc un peu plus exploratif, est-ce qu'on serait pas rentrer dans le jeu de l'exploratif.
Et du coup, en fait, c'était un peu particulier ce moment-là. Mmh. Et du coup, ça a changé notre manière de... Ce que tu disais, ça a changé notre manière de jouer, d'arriver dans des cases. C'est que, du coup, on n'a pas les mêmes saveurs. Mmh. On n'est plus dans le roleplay, on a du mal à se reglisser dans le personnage.
Ouais.
Et c'est presque dommage. En fait, je trouve qu'il y a un peu de jeu dans le jeu. Oui. C'est que tu as le jeu... c'est ce qu'ils disent, tu t'incarnes dans un personnage, mais du coup, en fait, tu n'es pas vraiment dedans aussi.
En fait, tu incarnes, soit tu prends le temps d'incarner le personnage dans lequel tu arrives, soit tu prends pas le temps et tu restes dans l'incarnation de ton,
en fait, la
de
mise
ton
en
personnage qui est en fait un mec qui est payé pour faire une mission et qui va vite.
Et la mise en abîme du jeu fait que forcément, plus tu avances et moins en fait tu savoures le scénario. Ouais. C'est presque dommage parce que du coup, en fait, tu peux pas profiter de la fin, je trouve. Ouais. En fait, là, c'est l'arrière-goût que j'ai sur la deuxième run, en vrai, c'est ça, c'est le... je peux pas savourer la fin parce que je peux pas la voir, en fait.
Ou alors, il faut prendre le jeu au sérieux. Peut-être que là, on l'a pas, on a trop été dans le speedrun. En fait, peut-être que finalement, c'est le vrai jeu commence à la troisième partie parce que t'as été, t'as été à fond dans l'exploration au départ et t'as été très lent, t'as fait des choix très stratégiques. Ensuite, tu fais des choix sur, enfin, des choix stratégiques en termes d'exploration. Par exemple, j'ai kiffé le fait que lors de la première partie, on a vraiment réfléchi sur chaque scène, au décor présenté, à quel personnage allait y aller en fonction de ses capacités. Là, par exemple, on n'avait plus du tout ça, on a passé vite fait à autre chose. Mais je pense qu'on serait obligé de retourner sur ce type de réflexion si on voulait rentrer dans la phase finale. Et oui, parce qu'effectivement... Là, il n'y avait plus du tout d'enjeu stratégique en termes de répartition des personnages. Ouais. C'est vrai
que... Pour le coup, on est arrivé très vite dans un endroit où on allait forcément tomber dans des combats. Et on avait moins de questions à se poser si on allait avoir besoin de chat ou de blabla ou de
On a quand même débattu bien 5 minutes sur qui va où, est-ce qu'on a les moyens de s'en sortir en termes de combat. Et en fait, on n'a pas fait les bons choix.
Oui, mais oui.
Il y a eu un peu de stratégie sur le combat à la fin, de savoir qui on allait sauver. On a eu même un dilemme. Ça qui est rigolo, c'est que dans n'importe quel jeu de rôle un peu narrativiste qui branle du manche, un dilemme entre Mademoiselle Doom. À un moment donné, on a carrément eu ce dilemme de... donc vous aviez fini votre baston, Anne-Cécile et Guillaume. Les bourrins s'en sortaient. Et la mémé était aux prises avec un monstre, et toi, t'étais aux prises avec un monstre clair. Et en fait, on a eu ce dilemme de de toute façon, l'une d'entre nous doit mourir. Et ça n'a pas du tout posé de problème narratif à ce moment-là. On a juste réfléchi en termes de stratégie. Lequel a le plus de chances de s'en sortir? Quel monstre est le plus intéressant à buter? Comment faut faire, etc. Mais du coup, il y a un peu de stratégie ludique aussi sur le plan des combats. Pareil, on disait au début, lors de la première partie, que ton personnage était pété. Mais parce qu'en fait, Claire, ton personnage, parce que t'as le dé blabla que tu peux. Mais en fait.
Une fois que tu sors de la tchatche.
En fait, il est pété au départ pour l'enquête. Mais après, tu vas, sur les dernières runs, tu vas sans doute t'emmerder, en fait.
Sur les combats, je vais être. Je vais être très peu efficace. Je pense que c'est même l'idée, c'est qu'elle meurt, dans mon avis.
Ou alors c'est effectivement les premiers runs tu l'as et tu changes de tu changes de personnage quand dans les runs suivants quand t'as moins besoin d'enquête.
Ce qu'on disait tout à l'heure, on a le droit de changer de personnage entre les enquêtes et c'est ce que je disais, est-ce qu'un deuxième run ne serait pas propice à 4 bourrins?
Clairement on aurait dû.
L'autre question que je me suis posée c'est sur par rapport au fait, est-ce qu'on a le droit de prendre des photos des indices qu'on a ou pas? Le jeu y a plus ou moins répondu, d'abord à travers ces logos en fait, qu'on a le droit de conserver, donc ça a l'air, les auteurs du jeu, autrices du jeu ont l'air de nous dire, vous ne conservez que les éléments que vous avez, et d'autre part, les énigmes supposent de positionner les cartes, le labyrinthe, il fallait positionner, les pentacles, on a commencé à comprendre qu'il y avait effectivement une affaire de positionnement, donc ça veut dire qu'avec des photos... à moins d'avoir un Photoshop sur soi et de pouvoir retourner les cartes et machin.
Non, mais chacun prend une photo avec son téléphone.
Alors tu rigoles, mais il y a des unlocks dans lesquels. Parce que ça me fait beaucoup penser ces énigmes-là. Il faut vraiment beaucoup penser à un autre jeu, à une autre gamme de jeux, en l'occurrence de Space Cowboy, qui est Unlock. Et dans Unlock, il y a des trucs où tu dois utiliser ton smartphone, le retourner, utiliser la lampe du téléphone, enfin des trucs complètement chiadés. Hein. Incroyable. Parce que pour le coup, Unlock, il y a une application sur smartphone. À télécharger. Donc voilà, donc le jeu répond en partie aux questions qu'on se posait. C'est intéressant.
Et pour moi, les unlock répondent à la question de la frustration, en fait. C'est que...
Vas-y, pourquoi tu dis ça ?
Parce que ces énigmes, quand même, sont faites pour être résolues. C'est-à-dire que t'as pas beaucoup de chances de mourir quand tu fais des énigmes unlock. Tu fais ton escape game jusqu'au bout.
Ouais, mais pour le coup, ils ont quand même mis un timer. Il y a quand même un timer qui va te permettre de scorer ta partie.
Ouais.
Si tu réussis à faire l'énigme dans les temps, t'as 5 étoiles, et sinon t'as...
Oui, c'est ça, ta note baisse, mais tu peux aller jusqu'au bout.
Bah là, en fait, c'est le principe du troisième run, en fait, où ta note baisse au flux, tu prends le temps, mais en soi, tu peux aller jusqu'au bout si tu, si tu meurs
c'est
pas.
C'est la torture, littéralement, on est en train de vous torturer.
Mais c'est normal, je vois beaucoup de similitudes entre Unlock et ce jeu, et je me demande si ce jeu... C'était pas en fait un proto.
Un bêta test, moi je le vois comme ça.
Ouais, quelque part ils ont. Mais je trouve qu'il y a des choses. Alors, pour défendre ce jeu quand même par rapport à Unlock, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'immersion et beaucoup plus de moteur d'imaginaire, d'imagination que dans.
Oui. Ah bah t'es plus investi, ça c'est clair. Voilà. Dans les Unlock, tu n'incarnes pas grand chose. Tu
n'incarnes personne, ouais. Puis, enfin, moi je me suis quand même surpris à me dire, ouais, j'ai envie d'explorer. Enfin, comment dire. Ouais, de reprendre, en fait, à la fin de cette partie, je me dis, non, en fait, là, on n'a pas bien joué. J'aimerais me remettre dans le jeu et me dire, comment dire, il y a un juste milieu, quoi, entre les deux.
Oui.
C'est ni comme la première, ni comme la deuxième, c'est essayer de faire un juste milieu entre les deux.
En fait, si je devais y rejouer, moi, la prochaine fois, même avec une autre d'autres personnes, c'est faire directement le troisième run, en fait, vu qu'on a déjà
mais
fait.
Mais en 25, c'est pas possible. Littéralement, en 25 temps, c'est pas possible. Il te faut un temps limité.
Ouais.
Ah, mais tu peux pas. Si tu fais la troisième run, tu sais pas ce que t'as débloqué ou ce que t'as.
Oui, c'est comme ce que disait Guillaume, on peut reprendre, comme il y a un côté un peu.
Ouais,
bah,
on arrête.
On a fait un run, on a fait un deuxième run, on s'est arrêté là, c'est la dernière sauvegarde. Et en fait, la prochaine fois qu'on le reprend, on reprend comme si on avait déjà fait les deux premiers runs. Parce que comme ça, bah, on peut avancer, quoi.
Ouais, c'est marrant ce truc. Et ben, en tout cas, ouais. Alors, est-ce que j'avais encore un... Donc, la manipulation de cartes, je t'ai posé la question. Tac, j'avais noté des trucs. Non, maintenant, c'est bon, j'ai posé toutes mes questions.
Moi, je dirais, peut-être une dernière chose qui me vient en tête, c'est qu'en termes de rejouabilité, je pense que c'est comme tu l'as fait que c'est le plus intéressant, en fait, de reprendre avec d'autres personnes et voir ce que tu découvres de nouveau dans le scénario. Quoi.
Faut attendre un peu.
Dans l'univers.
Oui, après quelques années.
T'attends un an.
Peut-être
deux.
Pas 4 ans.
Tant que d'avoir bien oublié, quand même.
Non, mais même, en fait, tu vois, aller chercher des choses que t'as pas vues, des choix que t'as pas fait.
Après, moi, tu vois, il y avait des choses, quand même, qui me sont revenues en tête en y jouant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé aussi. J'ai rien dit. Je vous ai laissé un peu trouver votre truc. Et puis du coup, comme ça, moi, je savoure aussi, tu vois, c'est de voir les autres se planter ou pas se planter ou de pas tomber dans le même piège que moi ou de tomber justement encore plus profond.
Non, on est bien tombé là.
mais en fait, tu vois, le plaisir aussi d'y rejouer comme ça avec une autre équipe, c'est de les accompagner, en fait, et de pas influencer le choix. C'est assez agréable.
Mais sérieusement, vous vous souveniez de ce qui se passait avec le médecin ? Parce qu'à un moment donné, vous avez...
Le médecin, je savais, je me souvenais.
Ok, d'accord. Mais... Si vous nous avez suggéré, vous nous avez dit « Ouais, mais là, on pourrait peut-être le laisser en vie, hein, au lieu d'aller dans le passage secret tout seul. »
Moi, c'est surtout à l'extérieur, à la promenade, il y avait ce fameux personnage en costume qui dansait tout seul dehors.
C'est là qu'on avait perdu.
Je m'en souviens très bien, puisque c'est celui où j'ai fait perdre tout le monde lors de notre première partie. Ce que j'ai dit, lui, incontournable. Et on a perdu, je sais pas, 6 tours à faire un rituel avec ce mec, avec la fameuse ventouse.
Non,
et on dansait autour du truc.
Non.
Et en fait, on a perdu sur un rituel païen avec une ventouse à chiottes, quoi.
Ils vous ont tellement trollé, quoi. Ah ouais, d'accord, façon donjon de Néalbe, quoi.
Ah oui, complètement, oui, tu peux.
Là, ces runs-là, on n'a pas trop trouvé les parties vraiment absurdes, mais il y en a quelques-unes, quand
là,
même.
On était assez sérieux, en fait.
Ouais, mais le premier run, en fait, était assez... On a été très bon, en fait, sur le premier.
Moi, je me suis demandé si on n'allait pas one-shotter, tu vois.
On aurait eu un temps raisonnable de jeu.
Ouais, c'est ça. Parce que je pense que c'est la meilleure partie qu'on avait fait. Là, le deuxième run était complètement raté, mais...
Ouais, c'était pas raté, c'était une autre tentative, c'était une autre exploration.
Mais bon, en tout cas,
Ça n'a pas marché.
On a perdu.
Disons que ça n'a pas marché.
Très vite. Sur tous les plans, il n'y a rien qui s'est bien passé. mais le premier run était vraiment très bon, en fait, en soi. Ouais, c'était, c'est le côté frustrant de Claire, en fait, où ça marchait très très bien et on a dû s'arrêter, quoi.
Ouais, c'est. Après, voilà, c'est effectivement, je dirais que c'est, moi, c'est quand même pas mon style de jeu. Alors, pour le coup, il s'inscrit parfaitement dans la ligne éditoriale de la cellule de cette saison. On avait dit, on cherche des jeux de société qui font du jeu de rôle. Pour le coup, là, en plus, c'est conscient chez les auteurs, ouais. Avec même l'humour du jeu de rôle. Tu vois, tu parlais de la ventouse, de faire le rituel, machin. Combien de scénarios de Cthulhu absurdes se sont passés comme ça sous l'improvisation d'un maître des arcanes complètement fou, évidemment. Et donc, du coup, là, tu reconnais bien cet humour-là. Il y a, on l'a dit, la description des cartes, même le contexte lovecraftien, tout simplement qui fait effectivement référence à l'appel de Cthulhu, etc., etc. Donc tout ça, on l'a bien dit. Donc il y a vraiment un hommage au jeu de rôle et un côté, voilà, on va vous faire faire du jeu de rôle avec des cartes et tout. Il n'y a pas de MJ, du coup, c'est les cartes et le plateau qui jouent le rôle de MJ. Donc ça, je trouve ça vraiment très, très sympa. Tout ça est parfaitement bien réussi. Après, je mettrai un bémol, moi, sur cet aspect speedrun et tout ça. Je sais pas. Moi, c'est l'aspect du jeu qui me... parle le moins à ce stade.
Pareil.
Disons que je comprends le plaisir qu'on peut y trouver, mais après c'est vrai que c'est un fantasme. Pour avoir beaucoup joué à des scénarios de l'appel de Cthulhu, c'est un fantasme parfois quand tu lis les scénarios auxquels tu as joué de te dire oh, mon Dieu, si on avait jeté une brique dans le puits. Eh ben, on aurait gagné le scénario. C'est arrivé, true story. Hein. On fait un scénario, il y a une maison qui mange des gens. Et en fait, donc du coup, la maison devient une créature vivante, etc. Et dès le début, en fait, le MJ nous décrit un jardin avec, au milieu du jardin, un puits en construction avec des briques. Et il se trouve que le trou, en fait, conduit justement sur le cœur de la créature. Donc si, en tant que PJ, tu rentres dans le scénario, tu jettes une brique dans le puits... tu tues la créature, parce que ça, la brique transperce son cœur, fin du truc. Et ça, tu peux le découvrir en explorant le manoir de la maison, enfin la maison vivante. Et donc, il y a ce côté, quand tu termines une partie de Cthulhu, de bon sang, si je l'avais su. Et je pense que c'est ça, c'était un peu le fantasme du jeu, c'est de dire, il y a tellement de scénarios de Cthulhu, on aurait voulu savoir. Et si on savait, en fait? Et si on refaisait le scénario d'un MJ fou, etc. Mais moi, il y a un côté que je trouve un peu fatigant à la manipulation des cartes. Ce serait un jeu vidéo, il y aurait juste à cliquer, peut-être que je le referais. Mais
cela dit, je me verrais très bien le faire en jeu vidéo sans limite de temps. Explorer.
Mais alors pourquoi en fait, sans limite de temps, Guillaume?
Je trouve que c'est dommage, ça désacralise un peu le jeu de rôle. C'est-à-dire que dans le jeu de rôle, ce qui est intéressant, c'est tes choix. Et qu'ils ont une importance et qu'ils vont aiguiller ta manière de faire. Et là, en fait, ce que dit le jeu, c'est que globalement, en fait, tes choix, on s'en fout. Parce qu'en fait, à la run d'après, on efface tout, on recommence. Et je trouve que c'est un peu dommage, en fait, parce que ce qui est intéressant dans ce type de scénario, c'est justement ta manière de procéder et c'est ce qui va t'amener à répondre à ce scénario. Alors, à la fin, tu gagnes, tu perds. Mais là, on te dit, globalement, tu vas pouvoir recommencer et faire différemment. Et mais du coup, tes choix, ils ont... En fait, ça casse le jeu de rôle. C'est pour ça que c'est aussi un jeu de plateau et un jeu de rôle. C'est tu retournes à la case départ.
Et quand je vois qu'il y a des missions ratées parce que tes choix de fin ont une influence et te permettent de gagner ou non, et qu'en fait, tu ne peux même pas arriver jusque-là, moi, je me suis fait piquer ma sucrerie, clairement. Ouais. Ça me tue.
Alors, je trouve ça passionnant, ce que tu viens de dire, Guillaume, sur la désacralisation du jeu de rôle. Mais je pense pas. Parce qu'en fait, ce que ça désacralise, ce jeu, c'est pas le jeu de rôle. Parce que, pour le coup, donc, ce que tu dis, c'est que c'est sacré parce que chaque partie de jeu de rôle est unique. Et ça, je suis absolument d'accord avec toi. On en a beaucoup parlé de l'aspect oratique, justement, des parties, du fait que chaque table est unique, chaque campagne est unique, etc. Mais en fait, c'est pas ça que ça désacralise ici, c'est le scénario. Et moi, j'ai envie de dire que le scénario dans le monde du jeu de rôle classique, soit désacralisé, c'est une très bonne chose. Parce qu'en vrai, il n'y a rien de plus chiant qu'un scénario. Et même pour le MJ, c'est chiant un scénario à suivre, en fait. Et donc, le fait que ces gens, Space Cowboys, là, critiquent le scénario en disant, ou en tout cas le désacralisent, pas le critiquer, parce qu'en fait, au contraire, moi je pense qu'en l'explorant de cette façon-là, en même temps qu'ils le critiquent et qu'ils le désacralisent, ils en font aussi un espèce de poncif du jeu de rôle sur lequel on peut jouer, et justement, tu vois. Enfin, c'est très, très intéressant, ça, cette discussion-là. Mmh. Et à mon avis, c'est plutôt le scénario raté, en fait, qui est, tu vois, c'est le scénario qui est désacralisé ici, et pas tellement le jeu de rôle en lui-même. Parce qu'au contraire, le jeu de rôle, il est totalement mis à l'abri par ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire qu'on en fait ou on n'en fait pas. On en fait une partie unique ou pas. En fait, c'est nous qui choisissons les potards. Début de partie, on choisit de mettre les potards du jeu de rôle à fond. En tout cas, Claire et moi, clairement, vous deux un petit peu moins. Anne-Cécile et Guillaume, vous avez un peu moins fait de roleplay et tout ça, mais quand
même. Ouais, mais je prends plus lentement dans les trucs.
Après, vous étiez quand même dans l'exploration. Quand j'ai mis la musique, ça vous a plu à tous les deux. Ah, donc il y avait quand même cette dimension. Voilà. Donc,
mais, enfin, l'immersion était là. Hein.
Voilà, je voudrais pas minimiser votre immersion, elle était là à fond. Donc, mais en tout cas, on a choisi. Et puis après, on a enlevé, on a rebaissé tous les potards. Et là, on est parti en mode jeu vidéo, clic, 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 etc. Mais c'est nous-mêmes qui avons choisi. Et c'est ça, en fait, l'intensité que l'on met, en fait, dans l'activité jeu de rôle. On l'a choisi, et voilà. Mais par contre, le scénario, ici, est désacralisé parce qu'il y a ce côté, bon, bah maintenant, on a fait le chemin A, on a exploré le truc. Je me souviens comme ça d'un scénario de Warhammer où il y a des scaven dans la ville. Tu peux passer par le dessus de la ville ou par le dessous. Si tu passes par le dessous, t'as un chemin A et un chemin B. Le chemin B, t'es mort. Le chemin A, tu survis. Tu vois, il y a un côté vraiment scénario, bête et méchant. C'est dans la campagne de l'Empereur, là. Enfin, je sais plus comment elle s'appelle, cette campagne qui est hyper... C'est texto dans le truc. Et tu fais, voilà, là, ça, c'est ce type de campagne-là qu'on n'aime pas, en fait, en tant que rôliste, en vrai. En vrai, on n'aime pas ça. Tous les rôlistes vous diront, mais c'est pas ça, une partie du jeu de rôle, c'est un MJ qui improvise et tout ça. Ça, ce type de campagne-là, il est désacralisé par ce jeu. Et je pense qu'il y a une discussion autour de ça. Mais pas tellement le jeu de rôle, en fait. Mais vraiment passionnante remarque, Guillaume, sur l'aspect unique et tout ça du jeu. J'avais pas vu venir. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a une discussion. Les auteurs du jeu, je pense, discutent avec le jeu de rôle sur ce plan-là. Donc vraiment, un jeu dans la droite ligne éditoriale de ce qu'on voulait effectivement faire. Mais... En fait, ce qu'on se dit depuis le début, Claire, c'est qu'en fait, on préfère le jeu de rôle. Ce jeu de plateau, ça nous emmerde.
Je l'ai pas dit.
Voilà, c'est excellent pour terminer la excellente fin de saison.
Bon compte rendu.
Et après, à chaque fois, non mais c'est vrai, parce que si tu fais le bilan, dans Rigor Mortis, il y avait très très peu de plateau au final, et c'est sans doute le jeu, en tout cas moi, à titre personnel, c'est un des jeux que j'ai préféré. Ouais.
Complètement. Tu laissais une liberté inconditionnelle.
Inconditionnelle, et voilà. Et en fait, moins il y a de plateaux, plus ça nous va. Mais tu vois bien que le but de ces gens, de ces auteurs, c'était à l'époque, on est en quelle année là ? Vous avez l'année de création du jeu, mais tu disais que ça faisait longtemps que tu l'avais, Guillaume. Donc,
ouais.
Au moins 4 ans. Ouais. La vie d'occasion, donc.
Ça me fait vraiment penser à ces premiers jeux de Space Cowboy où ils essayaient justement d'introduire en fait d'introduire des genres de jeux de plateau, tu sais, parce que le gâteau du jeu de plateau était énorme, il y avait de plus en plus de genres de jeux de plateau et tout ça, et il y avait vraiment cette ambition de faire découvrir en fait le jeu de rôle à une plus large communauté de joueurs et de joueuses, et donc je pense que ce
2015.
Jeu s'inscrit 2015, ouais, ok. Ah bah tu vois, il est plus récent que je ne l'aurais cru, je l'aurais daté de... Mais 2015, c'est déjà vieux. Hein.
Ça fait 10 ans déjà.
Ouais, ça fait 11 ans. Ouais. C'est déjà vieux. Mais tu vois, je l'aurais daté d'un peu avant encore. Eh ben, merci beaucoup, Guillaume et Anne-Cécile et Claire, de nous avoir amené ce jeu. C'est vraiment très intéressant. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter ou est-ce qu'on peut...
Oh, ouais, peut-être le truc loin.
Ça, c'est pas mal.
Mais les parties que vous aviez faites ressemblaient vraiment à ce qu'on a vécu là. Il y avait
à chaque fois cette frustration et à chaque fois cette idée de est-ce que je respecte les règles et je recommence ou est-ce que je continue ou est-ce que je triche, est-ce que Enfin, à la fin, il y avait vraiment ce côté-là.
On l'a encore jamais fini en plus, donc on a vraiment plus on y joue.
Moi, je l'ai fini.
Oui, toi, tu l'as fini une fois. Mais dans l'ensemble, sur nous trois, les deux, à ne pas l'avoir jamais fini, il y a un moment où on se dit, bon, on y va, quoi. On arrête.
Je trouvais ça intéressant aussi le fait qu'on ait commencé à tricher à partir du moment où on a viré le potard de l'immersion.
Oui. Mais parce qu'on ne le prend plus au sérieux, je pense. En tout cas, on est moins investi personnellement, émotionnellement.
Oui, en fait, on est là pour découvrir le scénario et y aller enfin, plutôt que de jouer, vraiment.
C'est rigolo parce que ça... Je pense qu'il y a une pelote de fil à tirer là-dessus. Le fait que l'immersion et l'investissement dans un univers fassent qu'on soit moins enclin à tricher ou à accélérer des règles ou à faire des shortcuts, comme on dit...
Ouais.
C'est quelque chose de très intéressant, je trouve. Est-ce que ça voudrait dire que l'immersion et la fiction sont plus propres en fait à faire des choses contemplatives et respectueuses d'une certaine séquençage dans les règles et tout ça, alors que le côté speedrun et tout, tu parles de désacralisation aussi dans ce côté-là. Est-ce que ça devient pas justement un truc purement mécanique?
Oui, complètement.
Ouais, je sais pas ça. Ouais, c'est... En tout cas, c'est un truc.
C'est pour le résultat. Mais en même temps, ça va avec ce qu'on nous demande. C'est-à-dire que le gars qui nous demande, il veut du résultat.
Putain, c'est vrai.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est qu'on commence par jouer les personnages de l'asile, vraiment, de vrai. Et après, en fait, on passe dans l'incarnation des joueurs, des personnages, des personnes qui viennent faire l'enquête.
C'est ce que dit la première carte, en fait. C'est bien, vous avez bien exploré l'asile, vous êtes content. Maintenant, faut aller bosser, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu ça le truc. C'est ce qu'ils veulent de nous, en fait. C'est qu'on aille à l'essentiel.
Ah, donc le jeu a conscience aussi de ça.
Oui, c'est vraiment, je pense, c'est encadré par la base qui te donne cette instruction et par le message d'échec qui te dit « Ah, mais t'as pas joué comme je t'ai demandé.
» Et après, ils nous disent « Bon, bah d'accord, si vous n'avez pas assez de temps, prenez le temps que vous voulez. » Et là, c'est le troisième qu'on n'a pas fait.
Puisque vous ne voulez pas faire comme on vous demande.
C'est intéressant. Enfin, voilà, c'est très intéressant. Le jeu... Enfin, il y a un côté jeu, méta-jeu, le jeu parle de lui-même.
Ouais, voilà. Il réfléchit beaucoup sur ce que c'est que faire un jeu de société ou un jeu de rôle.
Et il anticipe la frustration des joueurs sur la fin qui voudraient enfin y arriver quand même.
Ouais, c'est terrible de créer un univers aussi riche et de te le restreindre à ce point, quoi.
En même temps, c'est peut-être ce qui te donne l'impression qu'il est aussi grand.
Oui, peut-être que si tu avais directement tout le temps, tu n'aurais pas cette impression de...
Après, Lovecraft, c'est un peu un poncif. Tu vois, je veux dire, l'asile de fous, on a vu ça 100 fois. Il y a un côté où on joue avec les codes, tu vois.
Oui, alors c'est peut-être moi qui fais partie de ces tarés qui auraient voulu savoir combien il y a de pommes de terre dans la cuisine. Mais... Ouais. Ne pas le savoir, ça me tue.
Sans doute clair. Mais non, c'est très rigolo. C'est très très rigolo. Merci beaucoup encore une fois.
Merci
d'avoir amené ce jeu.
C'était trop bien.
Et bien, si c'est notre dernier podcast, je vous souhaite de bonnes vacances à toutes et à tous. Merci de nous avoir écoutés encore cette saison. Puis on reviendra plus fort, plus grand, plus beau pour la saison 18. C'est incroyable. 18 ans. Le podcast de la chaîne sera majeur. C'est incroyable. Merci à tous et à toutes. Bonnes vacances à tous. Portez-vous bien et surtout, jouez bien. À bientôt. Merci. Voilà, c'était le podcast de La Cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.